VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour l'Afrique, Morgane Guiriec et Henri Francisco micro.
Au sommaire, en ce vendredi 23 janvier, République démocratique du Congo, le Sénat doit voter aujourd'hui le projet de loi électorale très controversé.
Nous, on ne peut pas trop compter sur le Sénat. Ce sont des gens qui sont tentés de se partager des intérêts. Donner un mandat à M. Kabila sans élection. On n'a pas confiance.
À Kinshasa, un calme relatif était observé hier après 3 jours de violents affrontements.
Lutte contre l'Ebola, des essais cliniques de 2 vaccins vont bientôt débuter au Libéria.
Explosion au Caire devant le palais présidentiel, un policier a été blessé hier soir.
En Arabie Saoudite, le roi Abdullah est mort.
Le Japon a jusqu'à 5h50 temps universel pour verser 200 millions de dollars au groupe État islamique qui menace d'exécuter 2 de ses ressortissants.
Sans oublier le journal de la CAN. La Tunisie prend la tête du groupe B. Nouveau match nul pour la RDC.
Mais avant, le journal.
En République démocratique du Congo, le Sénat doit voter aujourd'hui le projet de loi électorale très controversé. L'opposition a appelé à manifester massivement dans le pays après 3 jours de violences meurtrières. Félix Yepassi Zembrou.
L'UNC et le MLC, 2 partis d'opposition, demandent le rejet du projet de loi électorale et appellent à de grandes manifestations sur toute l'étendue du territoire le lundi 26 janvier, jour de clôture de la session du Parlement. Ce collectif avait appelé à occuper le Parlement lundi et les manifs ont tourné en 3 jours d'affrontements meurtriers. Dans un appel séparé, l'UDPS de l'opposant historique Étienne Tshisekedi appelle à manifester pacifiquement dans toutes les villes et villages le lundi 26 janvier pour exiger le départ de Kabila. M. Tshisekedi, qui se fait appeler président élu de la RDC, refuse de reconnaître la moindre légitimité à Joseph Kabila et au Parlement actuel. Les députés élus sous son étiquette et qui ont accepté de siéger à l'Assemblée nationale ont été exclus du parti. Sami Badibanga, chef du groupe UDPS à l'Assemblée, fait maintenant cause commune avec l'UNC de Vital Kamerhe et le MLC de Jean-Pierre Bemba, incarcéré à La Haye.
À moins d'un mois des élections du 14 février au Nigeria, un haut responsable de la sécurité nationale a estimé hier que le scrutin devait être reporté. Michel Joseph.
D'après Sambo Dasuki, conseiller national nigérian en matière de sécurité, 30 millions de cartes d'électeurs n'ont toujours pas été distribuées. Il a appelé la commission électorale à envisager un report jusqu'à ce que tout le monde ait sa carte. La commission électorale indépendante, INEC, continue de dire que tout le monde aura sa carte à temps. Elle a récemment prévenu que le vote était peu probable dans les zones contrôlées par les islamistes de Boko Haram. Le Congrès progressiste, principal parti d'opposition, s'est prononcé contre un éventuel report. Son porte-parole, Lai Mohamed, estime que le camp de Jonathan Goodluck sait que si le scrutin n'est pas reporté, il ne pourra pas le remporter. La semaine dernière, le département d'État américain avait plaidé pour la tenue des élections présidentielles et législatives le 14 février, malgré les violences terrifiantes perpétrées par Boko Haram.
Lutte contre l'Ebola, des essais cliniques étendus de 2 vaccins vont bientôt débuter au Libéria. C'est ce qu'annoncent les États-Unis qui mèneront 16 essais avec le gouvernement libérien. Les 2 vaccins se sont montrés prometteurs chez l'animal. Ils ont aussi été testés aux États-Unis sur un petit groupe de volontaires. Des essais de phase 1 au cours desquels on a vérifié qu'ils étaient sûrs et capables de provoquer une réponse immunitaire.
Afrique du Sud, 92 personnes ont été arrêtées suite à une série de pillages visant principalement des commerces tenus par des étrangers dans le township de Soweto, auprès de Johannesburg. C'est ce que rapporte l'AFP, citant la police. Au moins 80 boutiques ont été pillées depuis qu'un commerçant étranger a tué un adolescent qui tentait de le cambrioler lundi soir.
Explosion au Caire devant le palais présidentiel. Un policier a été blessé hier soir par une bombe dans la capitale égyptienne. Une source policière citée par l'AFP affirme qu'un inconnu circulant en moto a lancé l'engin explosif devant la principale entrée du bâtiment. L'assaillant aurait ensuite pris la fuite. L'Égypte est en proie aux violences depuis l'éviction du président islamiste Mohamed Morsi en 2013. Plus de 1400 islamistes ont été tués depuis cette date et au moins 15 000 ont été arrêtés. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi se trouve actuellement à Davos en Suisse, où il participe aux travaux du Forum économique mondial.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
En Arabie Saoudite, décès du roi Abdullah à 1h, temps universel. Aujourd'hui, il avait environ 90 ans et était en mauvaise santé depuis quelque temps. Le nouveau roi et son demi-frère, le prince Salman. Un autre demi-frère, Mokren, est le nouveau prince héritier. Le président Barack Obama a envoyé ses condoléances personnelles et un message de sympathie des Américains à la famille royale et au peuple saoudien. Monsieur Obama a fait l'éloge de la candeur et des convictions du souverain disparu, un allié de longue date des États-Unis qui s'est servi des relations américano-saoudiennes comme d'une force pour la sécurité et la stabilité. L'Arabie Saoudite est le premier exportateur de pétrole dans le monde. Le cours du brut à New York a fortement rebondi après l'annonce de la mort du roi Abdullah.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré que les forces terrestres irakiennes ont enregistré avec l'aide de leurs partenaires de la coalition internationale des gains importants dans leur lutte contre les militants de l'État islamique. Et dans certains cas, estime John Kerry, elles ont réussi à briser l'élan des djihadistes, Claire Morin-Gibourg.
Le chef de la diplomatie américaine parlait hier à Londres à l'occasion d'une réunion de la coalition anti-État islamique. Selon lui, les troupes irakiennes, appuyées par des frappes aériennes de la coalition, ont ainsi repris 700 km² de leur territoire. Auparavant, M. Kerry avait qualifié la menace posée par le groupe de, je le cite, « défi de notre temps ». Il s'agissait à Londres d'évaluer les progrès réalisés et les stratégies à suivre. Mais pour Philippe Hammond, l'homologue britannique de M. Kerry, la campagne militaire doit s'accompagner de mesures pour contrer la propagande des djihadistes, endiguer le flot des combattants étrangers se battant aux côtés du groupe, tarir ses sources de financement et reconstruire les forces irakiennes. Selon le premier ministre irakien, Haïdar al-Abadi, son armée fait des progrès mais a encore besoin d'armes. Il a fait remarquer que la récente chute des prix du pétrole a été une catastrophe pour l'économie irakienne et pourrait affecter son budget militaire.
Le Japon, à moins d'une heure avant l'expiration de l'ultimatum lancé par le groupe État islamique, les djihadistes menacent Tokyo d'exécuter deux ressortissants japonais si 200 millions de dollars ne leur est pas versé d'ici 5h50 temps universel.
Démission du président du Yémen hier soir, Abd Rabo Mansour Hadi a ainsi emboîté le pas à son gouvernement qui a lui aussi renoncé au pouvoir. Ces démissions rejetées par le Parlement sont intervenues alors que la capitale Sana'a est contrôlée par une milice chiite.
Le conflit en Ukraine, l'armée ukrainienne a été chassée de l'aéroport de Donetsk par les séparatistes pro-russes hier.
Et puis ici aux États-Unis, le président démocrate de l'Assemblée de l'État de New York, Sheldon Silver, a été arrêté hier. Il fait face à 5 chefs d'inculpation pour corruption, Lionel Gaïma.
Sheldon Silver, 70 ans, s'est lui-même présenté au bureau du FBI de Manhattan et a été placé en détention. Il préside la Chambre basse de l'État de New York depuis 1994. L'acte d'accusation, long de 35 pages, précise qu'il a reçu plus de 6 millions de dollars versés par deux cabinets d'avocats depuis la fin 2002. Monsieur Silver aurait obtenu des millions de dollars de revenus externes, résultat direct de la corruption, ajoute le document. Selon le New York Times, l'enquête contre M. Silver a été lancée lorsque le gouverneur démocrate de l'État, Andrew Cuomo, a dissous l'année dernière une commission anticorruption qui avait été créée en 2013. Cette décision avait suscité de nombreuses critiques. Andrew Cuomo, à la tête de l'État de New York depuis 2010, a été réélu au mois de novembre.
Et les discussions historiques entre Cuba et les États-Unis se sont terminées hier à La Havane. Pas d'accord pour le moment, mais de prochaines réunions sont prévues, l'objectif étant de parvenir à la normalisation des relations bilatérales. On passe au journal de la CAN.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de la CAN sur VOA Afrique. La Tunisie prend la tête du groupe B, de nouveau match nul pour la RDC. De nouveaux matchs serrés hier à la Coupe d'Afrique des Nations. Dans le groupe B à Ebebiyin, la Tunisie est première ce matin après sa victoire sur le fil face à la Zambie 2-1. Menée au score par les Chipolopolo, les Tunisiens reviennent de très loin au bord du gouffre. Après l'ouverture du score d'Emmanuel Mayuka à la 60e minute de jeu, ils ont été sauvés de justesse par Ahmed Akaishi à la 70e et surtout Yassine Chikawi à la 89e d'un coup de tête. On écoute sur cette victoire Wahbi Khazri, l'attaquant tunisien.
Ouais, hold up, ouais, parce que c'est vrai que je pense pas qu'on mettait de gagner, mais bon, après, il y a encore des faits de jeu qui me semblent défavorables. Je pense qu'il y a deux pénalties qui sont oubliées. Mais voilà, comme j'ai dit, même si le jeu n'était pas là, le résultat est là, donc on va se profiter des trois points, être content et savourer. Et on a vu voilà, qu'on n'était pas au niveau ce soir. Mais comme j'ai dit, de prendre les trois points, ça fait du bien au moral. Et personnellement, si on va jusqu'au bout en jouant comme ça, mais en gagnant les matchs, ben, moi je me contenterai.
L'attaquant tunisien Wahbi Khazri. Les Aigles de Carthage comptent 4 points en 2 matchs et 2 longueurs d'avance sur la RDC et le Cap-Vert. Ces deux équipes se sont neutralisées hier 0-0. Kidiaba, le gardien congolais, a sauvé son équipe à de nombreuses reprises. Compte rendu sur place de Thierry Kambundi.
Un seul tir cadré en 90 minutes, insignifiant pour espérer quelque chose côté congolais face à une équipe capverdienne qui, elle, a buté à 3 reprises sur un Robert Kidiaba de grand jour. Le gardien du tout-puissant Mazembe, dont c'est la dernière canne, revient sur ses 3 arrêts décisifs.
J'étais prêt, c'est pour cela que j'ai fait sortir 3 ballons décisifs. Vraiment, il faut que je continue toujours comme ça à me concentrer.
Les Congolais ont manqué d'envie et d'ambition dans le jeu. Youssouf Moulumbu, le capitaine des Léopards de la RDC sorti sur blessure, n'a pas reconnu son équipe.
Aujourd'hui, on n'a pas montré le vrai visage du Congo. On avait l'air triste alors qu'on sait qu'on aime jouer au football, on aime attaquer. Et aujourd'hui, on ne l'a pas fait, donc on n'a pas gagné le match et c'est dommage.
Côté capverdien, on regrette surtout les occasions manquées qui pouvaient permettre aux Requins bleus de marquer et remporter ce match. Ryan Mendes est attaquant capverdien.
Je pense que ce match-là, on pouvait le gagner parce qu'on a eu les occasions pour le faire. Mais malheureusement, on n'a pas su marquer et puis le match, il est fini. Maintenant, on doit se concentrer sur la Zambie.
Et Bébéin, Thierry Kamboudi Kafouti de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Non, ne me teste pas, non, j'ai la balle, ne me teste pas.
Dans le groupe C, l'Algérie opposée au Ghana et le Sénégal qui affrontent l'Afrique du Sud aujourd'hui ont la possibilité de se qualifier pour les quarts de finale à Mongomo. Notre consultant Jules Valentin-Gué nous en parle dans son coup de sifflet.
Bonjour. À la veille de la deuxième journée décisive, dans le très relevé groupe C, les Black Stars du Ghana se retrouvent dos au mur. Le but assassin du Sénégalais Moussa Sow dans les ultimes secondes du premier match les condamne à l'exploit contre l'Algérie, un kit double qui risque d'accoucher la première sensation de la compétition. Le Ghana a montré des signes inquiétants lors de la seconde mi-temps du match d'ouverture. Une équipe physiquement émoussée, peut-être à cause d'une préparation insuffisante, un bloc contraint de reculer et de faire peser inhabituellement le poids du match sur le secteur défensif. Les cadres Ayou, Mensah, Badou, retenu pour épauler les plus jeunes, joue-t-il la compétition de trop? L'absence d'Assamoah Gyan a-t-elle été si préjudiciable? Ou encore les nouvelles étoiles Atsu, Rabiou et Moubarak ont-elles évolué en dessous de leur niveau? Les innombrables supporters des Black Stars, les fameux Brésiliens d'Afrique, aux jeux vifs et spectaculaires, espèrent que le staff technique a de nouveau la formule qui permet au Ghana de retrouver sa magie collective et ses gris-gris techniques, capable de lézarder n'importe quel mur, fut-il algérien? Réponse dans quelques heures. À bientôt.
Et dimanche, dans le groupe A, le Congo pourrait se qualifier pour les quarts de finale. Un match nul suffit au Diable Rouge contre le Burkina Faso. Mais vous allez l'entendre, Claude Leroy, le sélectionneur des Congolais, veut jouer sans calcul.
Bon, ils ne sont pas au bord du gouffre. Hein. C'est une équipe solide. C'est une équipe qui est toujours aussi solide, aussi percutante, avec Pitro Ipal et des frères Traoré. Non, nous, il faut qu'on joue comme on a toujours joué, normalement, sans se prendre la tête, en essayant de bien jouer au foot, jouer le football qu'on sait pratiquer. Si moi, on me demande d'assurer un match nul qualificatif, il faut tout de suite me limoger parce que ça, je ne sais pas le faire.
Claude Leroy, le sélectionneur du Congo. C'est tout pour ce journal de la CAN. Prochain point sur la compétition ce soir dans Le Monde Aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur notre site internet voafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec en votre compagnie, place au dossier du jour. Un calme relatif était observé hier à Kinshasa après 3 jours de violents affrontements entre les forces de sécurité et les militants de l'opposition. Le collectif de partis d'opposition qui avait appelé à occuper le Parlement en début de semaine dit vouloir observer le résultat du vote au Sénat avant de nouvelles manifestations prévues lundi. Le projet de loi électorale adopté par les députés rendrait possible un report de la présidentielle devant avoir lieu fin 2016, ce qui permettra au président Joseph Kabila de rester au pouvoir après expiration de son mandat. Pour nous en parler, Didier Sango, adjoint à Kinshasa, le président des forces novatrices pour l'union et la solidarité, Joseph Olengakoy.
Le peuple est déterminé. Vous savez, nous, on ne peut pas trop compter sur le Sénat. Parce que nous savons que c'est M. Kengo Adondo qui est l'architecte même de cette histoire, de ce projet de loi. Il lui appelle ça le glissement, c'est-à-dire donner un mandat à M. Kabila sans élection. Donc nous, nous pensons que ce sont des gens qui sont tentés de se partager des intérêts. À partir du moment où c'est Kengo Adondo qui préside le Sénat, on n'a pas confiance. On a confiance à la détermination de l'ensemble de notre peuple à découdre avec M. Kabila.
Le projet a été adopté et même voté au niveau de l'Assemblée nationale et maintenant c'est le tour du Sénat. Et si jamais le Sénat passait cette loi, quelle sera votre position?
De toutes les façons, nous on n'a pas attendu que l'Assemblée nationale adopte. Je crois que le peuple a démontré sa détermination. C'est l'ensemble des territoires nationaux qui a embrasé. Il y a les Kassai, il y a les Maniema, il y a des mouvements de la population un peu partout. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, on est en train de voir des camions de militaires qui sont en train de venir du Bas-Congo, donc vers les frontières avec l'Angola. Et il y a beaucoup de militaires qui sont en train de venir sur la route du Bas-Congo vers Kinshasa. Moi, je crois que tout ça, c'est pour effrayer la population, mais nous sommes déterminés à prouver au monde qu'un peuple conscient de son destin est plus puissant qu'une bombe atomique. Nous allons manifester pacifiquement dans la discipline. On n'insulte personne, on ne cassera rien du tout, on ne pillera rien du tout. Notre devoir et obligation est constitutionnel. C'est-à-dire la Constitution, dans son article 64, demande aux Congolais de se mobiliser comme un seul homme pour combattre tout individu, groupe d'individus qui veulent se maintenir au pouvoir ou qui exercent à violation des dispositions constitutionnelles. Voilà la légitimité du combat de notre peuple et nous-mêmes.
Je dis plutôt un calme est revenu à Kinshasa et dans d'autres villes, apparemment.
Mais je crois que le calme qui est revenu, c'est parce que nous avons demandé à nos bases d'attendre la décision qui sera donnée aujourd'hui au Sénat. Parce qu'on nous a dit qu'ils vont rejeter. C'est comme ça qu'on a attendu. Maintenant qu'ils ont reporté, je peux te dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus la police qui est dans la ville. C'est les gardes républicains et d'autres militaires. Il n'y a que M. Kabila qui connaît d'où est-ce qu'il a pris ses militaires. Aujourd'hui, à Kinshasa, c'est totalement comme si le pays était en état de guerre. Et je n'ai jamais vu un chef de l'État qui va amener l'armée contre son peuple. Nous avons aujourd'hui plus de 100 morts. Nous avons des listes, nous avons des hôpitaux, nous avons des morgues, nous avons tous les éléments à notre possession. C'est-à-dire plus de 100 morts et des blessés, n'en parlons même pas. Les gens qui sont dans des prisons, n'en parlons même pas. Il y a des corps que eux-mêmes les services de M. Kabila ont pris, ils sont partis jeter ou garder là où ils ont voulu. Mais nous avons répertorié et filmé. Nous attendons le moment pour déposer tout cela à la justice internationale. Il doit être interpellé, il doit être arrêté.
Le président des forces novatrices pour l'union et la solidarité, Joseph Olengakoy, joint par Eddy Sango à Kinshasa.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur Radio Télé Mwangaza, à Lubumbashi, province du Katanga.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a examiné cette semaine le rapport final du Bureau des Nations Unies au Burundi, dont les activités ont pris fin le 31 décembre 2014. À cette occasion, le secrétaire général adjoint onusien pour les affaires politiques, Jeffrey Feltman, a appelé le gouvernement burundais à organiser des élections paisibles et crédibles en garantissant la pleine participation de l'opposition. Aux opposants, Feltman a conseillé de traiter tout différend électoral par des moyens pacifiques. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction de l'ambassadeur du Burundi à l'ONU, Albert Shingiro.
C'est une préoccupation partagée avec nos plus hautes autorités. Le président de la République, son Excellence Pierre Nkurunziza, a promis chaque fois que les élections de 2015 pourront se dérouler de la meilleure façon possible, plus que les élections que nous avons connues en 2005, en 2010. Donc le président promet des élections démocratiques, transparentes, libre, inclusive, parce que il faut que tous les partis, grands et petits, puissent participer à ce grand rendez-vous électoral, parce que, comme vous le savez, même sans assises populaires, il faut quand même faire partie du jeu. Il faudrait pas que les partis d'opposition reprennent la même erreur de 2010 et boycotter les élections.
Les partis d'opposition et les groupes de la société civile se plaignent de restrictions dans la vie politique au Burundi. Qu'en est-il?
Nous sommes, comme vous le savez, une très jeune démocratie qui se recherche encore. Tout ce que nous faisons, nous devons nous adapter au fur et à mesure que nous évoluons dans le sens de la démocratie. Il y a chez nous certains partis qui n'ont pas d'assises populaires, qui préfèrent faire leur campagne à travers les médias, à travers la société civile, etc., etc., mais qui ne vont pas l'intérêt du pays pour être en contact avec les villageois. Or, l'essentiel des votes se trouve là-bas, dans le Burundi profond.
L'ONU dit qu'elle n'entend pas jouer un rôle de simple observatrice. Elle entend être plus activement impliquée dans le processus électoral dans votre pays. Qu'en dites-vous?
Vous savez, tout ce qui se dit sur les médias, au niveau des relations entre le Burundi et l'ONU, il y a le canal diplomatique approprié. La MINUB, c'est une mission d'observation électorale qui a été sollicitée par le gouvernement du Burundi pour venir accompagner, être sur place, tout comme les autres missions d'observation électorale de l'Union africaine, de l'Union européenne, etc., ou de la région au niveau de l'East African Community ou de la SADC. Donc c'est une mission d'observation électorale qui a une mission bien précise, l'observation électorale. Donc ce n'est pas une mission politique. La mission politique s'est terminée avec le BINUP. Et d'ailleurs, nous venons de signer l'accord qu'on appelle dans le jargon onusien le SOMA, sur le statut du personnel de cette nouvelle mission des Nations Unies au Burundi. Ce document juridique permettra à l'équipe de l'envoyé spécial et chef de mission de la MINUB de travailler sur une base légale solide.
L'ambassadeur du Burundi à l'ONU, Albert Shingiro, joint à New York.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura, et 107.1 à l'intérieur du pays et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Au Niger, blocage temporaire des réseaux sociaux hier par les autorités gouvernementales. Pas de SMS ni d'accès à Twitter et Facebook pendant la suspension décrétée par le gouvernement et justifiée pour raison de sécurité. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Lorsque dans la mi-journée, le ministre de l'Intérieur sur les ondes des médias internationaux explique que ce blocage est une décision du gouvernement pour éviter de nouveaux débordements après les émeutes des 16 et 17 janvier dernier, Abbas Abdelaziz, président de l'Association de défense des droits des consommateurs des technologies de l'information et de la communication, se dit indigné.
Vous savez combien de consommateurs nous avons calmés parce que eux, ils ne comprenaient pas que c'était l'état du Niger. Ils voulaient s'en prendre aux opérateurs. Et Dieu merci, nous sommes là, nous avons fait comprendre que non, ce n'est pas la faute des opérateurs. Et que c'est une décision du gouvernement du Niger. Mais imaginez que les consommateurs s'en prennent à tous les opérateurs de téléphonie mobile. Qu'est-ce qui allait encore se passer? Au moment où on cherche une stabilité, une tranquillité, le ministre de l'Intérieur, dans ses habitudes, ressort encore pour semer le trouble au Niger. Vraiment, s'il ne comprend pas les choses, qu'il laisse les Nigériens tranquilles, ne pas les provoquer, parce que ça, c'est une provocation.
Les utilisateurs des réseaux sociaux ont été, eux aussi, très surpris par cette mesure. Malgré la fracture numérique,
j'ai essayé de me connecter sur WhatsApp ou Viber et prendre des nouvelles de la famille qui sont à l'extérieur du pays. Le réseau était déconnecté.
Même les messages SMS, ça passe pas, non, c'est ça? Est-ce que vous trouvez que c'est justifié?
Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas justifié ou bien fait un message au niveau des médias. Vraiment, ils devraient informer à la population de Niamey ou environ que le réseau va être coupé.
En fait, j'essaie de me connecter sur le réseau Facebook que j'utilise régulièrement et il semble-t-il que le gouvernement a bloqué les réseaux sociaux pour des raisons sécuritaires. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas une justification en tout cas valable pour couper les réseaux sociaux, quoi, parce que je ne pense pas que de là, ça peut créer des émeutes comme ça a été le cas le 16 et le 17 passé. Moi, je me sens vraiment déconnecté, hein, du monde.
Le recours aux réseaux sociaux pour s'informer est de plus en plus en train d'entrer dans le quotidien de beaucoup de Nigériens, surtout chez les jeunes. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour la Voix de l'Amérique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Jean-Roger Billon. Bonjour Jean-Roger.
Bonjour Morgane, bonjour à tous.
Le Mali ambitionne de produire 800 000 tonnes de coton à l'horizon 2018.
Oui, le Mali a produit l'année dernière déjà 552 000 tonnes de coton contre 440 000 la saison précédente. Le secret de cette embellie, le gouvernement a augmenté les subventions aux intrants et a baissé le prix des engrais. Cette subvention importante de l'État a donné beaucoup d'élan à la production de coton, révèle Kalfa Sanogo, le patron de la compagnie malienne des textiles, à Reuters. En plus de l'or, le coton est l'un des principaux produits d'exportation du Mali.
L'euro est à la baisse face au dollar.
La chute s'est produite après l'annonce des rachats d'actifs de la Banque centrale européenne. Ce rachat a pour objectif de stimuler l'économie dans la zone euro. Conséquence, l'euro est tombé à 1,15 dollars alors qu'il évoluait auparavant autour de 1,16 dollars. Une tendance qui ne serait pas très favorable pour les économies africaines dont la parité des monnaies se négocie avec l'euro.
La baisse de l'euro, ça joue sur nos exportations, l'exportation de nos matières premières qui s'expriment en dollars. C'est désavantageux pour les Africains.
Clarisse Yapelogo, éditorialiste au magazine Innovation Afrique à Paris.
Un championnat de football qui fait bon an mal an des recettes.
Oui Morgan, il s'agit de la Bundesliga. L'élite du championnat d'Allemagne a établi selon l'AFP pour la 10e année consécutive un record du chiffre d'affaires lors de la saison 2013-2014 avec 2,45 milliards d'euros. 13 des 18 clubs de l'élite ont réalisé des bénéfices, soit un club de plus que la saison précédente. Le football allemand a utilisé la solidité de sa base financière pour obtenir des résultats exceptionnels.
C'était la Minute Éco. Merci Jean-Roger Billon.
Chers auditeurs de VOA Afrique, restez branchés aujourd'hui entre 20h et 21h, temps universel, au menu de la bonne musique des îles. Nous dégusterons bien sûr quelques morceaux reggae, zouk, soca, calypso. Notre sujet de cette semaine aussi continue. D'après vous, quels sont les métiers les plus dangereux du monde et pourquoi ? Certaines professions comportent des grands risques, n'est-ce pas ? Mais on en parlera encore ce soir dans RM Show. Nous lirons aussi vos mails et vos commentaires postés sur notre groupe Facebook Roger Muntou, La Voix de l'Amérique. Appelez-nous donc entre 20h et 21h, temps universel, au 001 202 619 3140. Peace, Africa !
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Alain Burton à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriac au micro et je vous souhaite une excellente journée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.